Merci beaucoup.
Mais bonjour, comme il a dit, je m'appelle Charlotte, puis je travaille en tant qu'assistante de recherche du projet Hyper-Roi, manuscrit inédit dans les archives de Gabrielle Roy, qui est dirigé par Sophie Marcotte, comme vous le savez sûrement. Actuellement, Hyper-Roi poursuit l'établissement et la diffusion de dossiers génétiques sur son site Internet. Le dossier du texte « Le temps qui m'a manqué », qui est le deuxième volet de l'autobiographie de Roy, est déjà disponible, alors qu'il y a d'autres chantiers qui sont en cours, notamment « La détresse et l'enchantement », La rivière sans repos et Cet été qui chantait. De mon côté, moi, je travaille sur Jeannot Lacorneille, qui est le quatrième des 19 récits du recueil Cet été qui chantait, qui a été publié en 1972. Donc, mon premier contact avec le dossier génétique, c'était un peu un accident. C'est François Ricard, qui travaille aussi avec le groupe de recherche, évidemment, qui m'a donné une grosse boîte au ménage du printemps de l'été du printemps 2013. Donc, une grosse boîte très encombrante dans laquelle il y avait des photocopies de tous les états de cet été qui chantait. Monsieur Ricard m'a expliqué que c'était la documentation rassemblée par Sarah Courchaine pour son mémoire de maîtrise en 2009, qui était une étude génétique de Jeannot Lacorneille. Donc, 42 chemises dans une boîte très encombrante que je me suis empressée de mettre dans un garde-robe proche du bureau de François Ricard. C'est un peu plus tard, ma directrice Jane Everett qui m'a proposé de reprendre Jeannot Lacorneille pour en faire l'édition numérique, étant donné que j'avais tout le matériel dans ma grosse boîte. Donc, j'ai entrepris le projet, mais je suis rapidement tombée sur des problèmes qui avaient trait, en fait, à la nature du travail, que je résumerai un peu en trois obstacles. Donc, le premier s'est présenté dès le départ. Je me suis dit, en fait, que c'était inutile de diffuser les états en format numérique. J'ai une formation en littérature, puis ça me pousse vraiment plus spontanément à réfléchir aux dimensions narratives et textuelles d'un texte plutôt qu'à le retranscrire au complet dans du code. Alors évidemment, je trouvais ça un peu répétitif. Puis j'associais de manière un peu inconsciente l'équivalent à une répétition de l'étude initiale. Puis au fond, je négligeais le changement de dimension du format papier au format numérique. Puis je négligeais aussi les résultats et les conséquences de ce changement-là. Le deuxième obstacle s'est présenté juste avant de commencer à injecter les manuscrits, les dactylogrammes, les épreuves dans le logiciel. En fait, j'ai eu une impression complètement différente, à l'opposé. Je me suis dit que j'étais en train de détruire le matériel accumulé par Sarah Courchaine et que c'était une sorte de travail un peu nuisible que j'allais entreprendre. Le troisième et dernier obstacle qui s'est présenté à moi, c'est juste au moment de commencer le travail. Selon moi, c'est l'obstacle le plus fondé. J'ai réalisé que je n'arrivais pas à ouvrir le logiciel du groupe de recherche. Je pense que ma réaction en trois étapes résume très bien, au moins en partie, une attitude des chercheurs dans les facultés des arts vis-à-vis du numérique. Le numérique qui influence maintenant à différentes échelles pour tous les chercheurs les pratiques de la recherche. Ces changements-là sont intéressants à cette étape-ci parce que pour moi, ils contiennent déjà en germe les signes les plus importants d'une espèce de grande mutation. Le contexte me fait penser à un passage de l'essai « Le rideau » de Milan Kundera, dans lequel Kundera écrit sur les débuts de la modernité tels qu'articulés par le roman. Je le cite, « Déduisons de règle générale, la portée existentielle d'un phénomène social est perceptible avec la plus grande acuité, non pas au moment de son expansion, mais quand il se trouve à ses débuts, incomparablement plus faible qu'il ne le deviendra demain. Car il faut rappeler une autre règle générale, tandis que la réalité n'a aucune honte à se répéter, la pensée face à la répétition de la réalité finit toujours par se taire. » Donc, le travail que j'ai commencé m'autorisait à une certaine comparaison entre la version traditionnelle puis le début de l'édition numérique que j'ai fait de Jeannot Lacorneille. Je vais vous présenter un peu le travail de l'édition génétique rapidement, donc les états de Gabrielle Roy puis mes outils. Le travail de l'édition génétique se fait à partir des brouillons d'une œuvre, donc de toutes les étapes de production d'une œuvre, qui sont déjà conservées pour leur valeur muséale et patrimoniale. Dans ce cas-ci, on s'intéresse plutôt aux traces du processus d'écriture, selon les termes d'Almud Crisillon. Ça consiste donc à décrire, à dater et à recueillir le plus de renseignements possible sur ces étapes-là. Pour Jeannot Lacorneille, il existe 12 états du texte. Les deux premiers sont rédigés dans des cahiers reliés en spirale de 5 pouces sur 7 pouces. Les trois suivants sont dactylographiés par une secrétaire et annotés par Gabrielle Roy. Les deux suivants sont des copies carbone avec de nouvelles corrections de l'auteur. Les 8e et 9e états sont les épreuves. Et les trois derniers, ce sont les trois éditions de Jeannot Lacorneille. Le dossier génétique contient d'habitude des notes pré-rédactionnelles, mais dans le cas de Gabrielle Roy, on a très peu de notes de planification comme celle-là. on retrouve des petits détails qui nous aident à cerner la chronologie. Sarah Courchain avait identifié, par exemple, un coupon sur lequel on pouvait lire « Tabagie Cartier, 1968, Québec, 25 sous ». Donc, la génétique textuelle va nécessiter un déchiffrement assez fastidieux. Puis c'est à cette étape-là que l'édition numérique va bifurquer de l'édition génétique traditionnelle. Dans une étude génétique complète, il y a un relevé de variantes puis une transcription diplomatique. La transcription diplomatique, c'est un équivalent simplifié du manuscrit d'un état ou des épreuves ou des dactylogrammes qui va signaler par des chevrons, des crochets, des soulignements, les ratures, les ajouts, les suppressions, etc. Donc, dans la version numérique, il y a une transcription dans du code de chaque page, de chaque état, grâce à des balises qui illustrent les mêmes ratures, ajouts, suppressions, mais on essaie d'inclure le plus d'informations possible. Donc, il y a plus d'informations disponibles, ce qui peut créer une surabondance de données et une espèce de manque de hiérarchisation entre elles. Mais la version traditionnelle, avec la transcription diplomatique, peut occulter une partie de l'information. Le groupe Hyper-Roi utilise un protocole et des outils développés par la Text Encoding Initiative, la TEI, mis sur pied en 1987. Sinon, on utilise la dernière version, la TEI P5, l'éditeur XML Editix et un site web développé avec le système de gestion de contenu Drupal, produit conjointement avec le NT2. Donc, à partir du logiciel Editix, les transcriptions de chaque page et de chaque état de l'œuvre sont balisées. Une balise, comme vous le savez, ça ressemble à une annotation. Les balises entre chevrons incluent des éléments, des attributs, des valeurs qui permettent de caractériser chaque portion de correction, d'ajout, de suppression. À sa base, le document possède aussi une déclaration initiale qui définit son contenu et une structure en arbre. Ma deuxième impression, mon sentiment de détruire la documentation de Sarah Courchain, provient justement du fait qu'il y a plus qu'une homothétie entre la version numérique, qui est vraiment une transformation vers la ligne de code. On peut lire dans l'abécédaire NT2 que le numérique se définit justement comme la représentation de données par des éléments binaires ou divisibles qui s'opposent à l'analogique, qui est une représentation qui comporte des similarités avec son objet. En comparaison avec la transcription de Sarah Courchain, la transcription diplomatique, mon balisage XML provoque un changement plus profond, une espèce de disjonction entre le contenu et le support. Ça contredit évidemment ma première impression, qui est le fait que le travail est une répétition, mais ça soulève d'autres questions par rapport à la conservation et à la transmission du patrimoine écrit. Il faut évidemment conserver les manuscrits de Gabriel Leroy, les états de l'œuvre, et évidemment le travail de Sarah Courchain. Mais quand je faisais le travail, je me suis demandé, est-ce qu'il faut conserver mes lignes de code? Est-ce que le XML fait partie d'une espèce de patrimoine? Ma peur de détruire le matériel n'est pas vraiment fondée parce que les lignes de code ne vont pas détruire les manuscrits à moins qu'on les jette. Et je ne pense pas que je dois conserver mes lignes XML, tout comme le groupe de recherche n'aura peut-être pas à conserver les logiciels WordPerfect, les CD-ROM et toutes les disquettes qu'on a accumulées au fil des années. Ce qui m'amène à une autre des modifications profondes dans le virage numérique de la critique génétique concernant les objectifs du travail. Dans son mémoire, Sarah Courchain cherchait d'abord à établir le dossier génétique, ensuite à fournir un aperçu, mais surtout finalement, à dresser une analyse de la genèse au complet de Jeannot. Mon travail est vraiment différent. L'un des premiers objectifs du balisage XML, c'est pas de définir le mouvement textuel génétique du premier état au dernier, mais plutôt de fournir à des chercheurs et même à d'autres lecteurs un accès aux archives de Gabriel Roy, aux manuscrits, à son écriture. Ces lecteurs-là pourront, eux, tirer des hypothèses. Donc, la finalité distincte entre les deux versions ne permet pas vraiment de dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est évident, mais ça montre à quel point leur cadre impose des critères puis une méthode de travail différente. La création de bases de données inclut beaucoup plus d'informations qu'une édition papier et ça ne sollicite pas, évidemment, le même genre de description et d'explication. Catherine N. Hales, dans son ouvrage sur les conséquences des nouvelles technologies, explique que la diffusion des données change la nature de ces descriptions-là. Je la cite, « The scholar who works in digital media is likely to store data in database rather than express it discursively. » En plus, les données fournies par le dossier génétique de Jeannot Lacorneille seront plus mises en relief et décrites en fonction d'une thèse fédératrice, qui était celle de Sarah Courchain. Les éléments vont prendre forme dans la sphère numérique. En tant que pièces à conviction autonome, ils vont pouvoir être réassemblés de plusieurs manières pour soutenir d'autres arguments puis investiguer d'autres aspects de l'écriture de Roy. L'effort de balisage assure donc avant tout la diffusion du matériel. L'accessibilité du dossier génétique s'en trouve évidemment décuplée, c'est évident. tandis qu'auparavant, le chercheur ou le lecteur très motivé pouvait accéder au dossier génétique complet en se rendant à Ottawa, à la Bibliothèque nationale, dans le fonds Gabriel Roy, dans les boîtes 53 et 54, retrouver toutes les chemises pour faire des photocopies. Il pourra maintenant traverser les états de l'œuvre depuis son ordinateur, en pyjama s'il le souhaite. Ce qui change aussi évidemment la façon de lire le contenu. Contrairement à une bibliothèque qui cherche surtout à préserver son matériel, le web ne va pas diffuser le contenu de la même façon. L'accès au matériel génétique est pensé en fonction de l'usager, qui agit en amont et en aval. En amont parce que c'est pour faciliter ses recherches qu'on construit les moteurs de recherche et les liens entre les documents. En aval, parce que ses besoins vont pouvoir appeler des modifications, des ajouts, des retraits dans le matériel numérique, mais aussi parce que l'internaute a le pouvoir de rediffuser les informations qu'on veut mettre en ligne. La critique génétique a évidemment trouvé un vecteur puissant pour le lecteur, pour que le lecteur accède à ses ressources. Les brouillons d'une œuvre partagent en effet beaucoup plus de propriétés avec le lien hypertextuel qu'avec le papier. La lecture de la genèse d'une œuvre se déploie plus naturellement comme une constellation hypertextuelle que comme un ensemble continu, linéaire et cohérent. Un hypertexte, ça se définit comme un système interactif qui permet de construire et de gérer des liens sémantiques entre des objets repérables dans un ensemble de documents polysémiques, selon Gérard Vérous dans l'Encyclopédie universaliste. Donc, les brouillons de l'œuvre rattachés par des fils invisibles qui permettent de mettre en relief les ratures, les ajouts, les suppressions vont être plus lisibles. La recherche par mots-clés permet aussi un autre type de lecture et de recherche entre les États et même au sein des États. C'est cette navigation-là qui va remplacer le papier, c'est évident. Almud Crézillon le dit aussi, je la cite. L'hypertexte ressemble aux anciens arts de la mémoire, mais il est aussi mémoire de l'avenir. Donc, pendant que les visées du travail sont modifiées, le lectorat de mon contenu change aussi. Par rapport à ça, à court chaîne. La précision du travail et la quantité de documents disponibles, fournissent aux chercheurs, aux professeurs d'université, mais aussi cette fois-ci aux professeurs de cégep, d'école secondaire, à n'importe quel lecteur intéressé par Gabriel Roy ou curieux des protocoles d'édition numérique, des nouvelles ressources. Il faut revenir à la définition même des modalités du travail prescrites et orientées par l'usager, comme je l'ai mentionné. Cet autre lecteur-là pointe vers un chevauchement de pratiques, ce qu'Alessandro Barrico présente comme une mutation barbare. Barrico parle de pratiques barbares qui misent sur la surface plutôt que la profondeur, la vitesse plutôt que la considération, les séquences plutôt que l'analyse, la navigation plutôt que l'étude approfondie, la communication plutôt que l'expression, le multitâche plutôt que la spécialisation, le plaisir plutôt que l'effort. Le barbarisme n'est pas du tout connoté négativement par Barrico. C'est plutôt le constat d'un savoir provenant en large partie de zones qui appartiennent pas à l'élite culturelle et au savoir universitaire. Donc, un nouveau savoir qui nourrit de nouvelles pratiques de recherche et qui dérange aussi ces pratiques. Et ça fait signe directement vers la dernière limite dont j'avais parlé, donc mon sentiment d'incompétence. C'est un obstacle assez majeur et un défi pour la communauté universitaire. En fait, ce qui fait du domaine des humanités numériques un espace où il est nécessaire de collaborer au cœur d'un domaine souvent axé sur les projets très solitaires. Hyperroi est justement, entre autres, fondé sur l'objectif de participer à une communauté virtuelle qui reçoit et diffuse de l'information et des modèles et qui dépend aussi de cette information-là. Ça peut prendre aussi une infinité de formes à une échelle peut-être plus réduite. Dans le cas du groupe de recherche, on a assisté à des formations très différentes. Une formation sur l'édition critique avec Jacinthe Martel à l'UQAM, une autre sur le logiciel Editix qui permet de faire le balisage XML avec Robin Varenas et Grégory Fabre au NT2. Ça prend aussi la forme dans le travail, dans le processus du travail, d'échanges continus entre les étudiants, entre eux et avec les professeurs. En comparant l'étude génétique traditionnelle de Sarah Courchaine avec le processus de balisage XML que j'ai fait, c'est évident que la deuxième version donne plus d'informations en termes quantitatifs. D'une part parce que la transcription, comme je l'ai dit, est beaucoup plus détaillée. D'autre part parce qu'elle est plus susceptible d'être lue et analysée par plus de lecteurs. En fait, même le balisage XML va orienter la recherche de manière assez différente de la proposition traditionnelle. L'étude traditionnelle, comme je l'ai dit, met l'accent sur des traits d'ensemble parce que l'aboutissement de l'analyse, c'est de fournir un portrait global de la genèse du récit. Dans son mémoire, par exemple, Sarah va procéder en deux temps. Elle va caractériser le contenu et elle va caractériser le style, la grammaire, la syntaxe, tout ça. Elle va dire, d'une part, que le contenu et progressivement modifiée par l'idée d'une proximité qui s'accentue entre les oiseaux et les êtres humains dans Jeannot Lacorneille. Puis du côté stylistique, elle va dire que toutes les modifications se placent sous le signe du chant, donc le terme issu du titre du recueil « Cet été qui chantait ». Or, la navigation dans les documents, de la manière que moi je vais la construire avec le balisage, ça amène puis ça encourage d'autres lectures. Moi, juste en comparant les deux premiers états, les deux premières pages, les deux premiers états, j'arrivais à plein de modifications qui me donnaient des pistes d'autres analyses qui ne s'inscrivaient pas dans la première lecture de Sarah Courchain. Il y avait des inversions d'adverbes, de segmentiers, il y avait des glissements sémantiques qui ne cadraient pas avec l'analyse. Il y avait même Jeannot qui apparaissait à la deuxième page avec le cerisier et le vent, puis qui concrétisait l'image centrale du récit, qui n'apparaissait pas dans le premier travail. L'étude traditionnelle avait quelque chose de plus définitif. Peut-être aussi que les outils ne permettaient pas à Sarah de saisir toutes ces modifications-là. Dans le cas du numérique, ce n'est pas seulement le contenu qui va rester ouvert et susceptible d'être augmenté ou modifié, mais c'est aussi les outils. Je voudrais parler peut-être de pistes que j'aimerais investiguer ou qui seraient à investiguer. Donc, le balisage lui-même pourrait être augmenté dans l'avenir. Le format numérique nous laisse libre de penser à des méthodes pour mieux visualiser les couches chronologiques de la production de l'écrivain. Par exemple, Gabriel Roy travaillait souvent, comme je l'ai dit, ses cinquième et sixième états sur des copies carbone. Donc, elle faisait des modifications sur les dactylogrammes dactylographiés par sa secrétaire. Elle prenait la copie carbone, elle retranscrivait les modifications, puis elle ajoutait d'autres modifications par-dessus. Donc, on pourrait penser à une lecture sur le web qui permettrait de voir les états successifs comme ça, mais aussi une navigation, donc une navigation horizontale puis une navigation verticale qui permettrait de voir le travail qui a été fait sur le même état ou sur la même page d'un même état, par exemple. De manière plus large, le parcours aussi de la navigation web devrait tenir compte du fait que Jeannot Lacorneille s'inscrit dans un recueil. Donc, c'est un récit parmi d'autres récits qui a été écrit concrètement proche des autres récits. Donc, il y a probablement des liens entre les modifications des récits. Finalement, un autre des défis de l'édition génétique, va être de tenir compte de l'écriture à plusieurs mains. Ma directrice, Genevrette, me rappelait que Cet été qui chantait a été modifié pendant la traduction du texte par Joyce Marshall. Donc, ça, je ne sais pas trop comment ça pourrait être illustré, mais il va falloir éventuellement en tenir compte. Ces pistes signalent bien pour moi tout le potentiel qui reste encore à mettre en œuvre et tout le potentiel qui est déjà là. Je pense qu'il est nécessaire de faire une sorte de va-et-vient entre les protocoles traditionnels et la nouvelle édition numérique pour ne pas escamoter d'informations, pour ne pas escamoter le processus, pour ne pas aller trop vite et pour configurer des solutions intelligentes. En conclusion, je dirais que mon travail n'est probablement pas inutile, destructeur ni impossible. J'ai souhaité comparer les méthodes de travail, les objectifs et le processus de l'étude génétique, d'une étude génétique basée sur un modèle traditionnel et de sa nouvelle version numérique pour mettre en évidence leurs spécificités. Mais en fin de compte, je dirais que c'est une comparaison intéressante, mais que les deux résultats ne sont pas vraiment comparables. C'est des ressources qui fonctionnent en parallèle. L'étude génétique de Sarah reste valide après coup. C'est une interprétation possible de la genèse de Jeannot Lacorneille, alors que ma version numérique va permettre à d'autres lecteurs de proposer d'autres interprétations ou même d'aller analyser des aspects complètement différents de l'œuvre. Le numérique, pour moi, a certainement quelque chose d'un peu barbare. C'est sans doute pour le mieux. Une des forces, c'est justement d'ouvrir l'accès aux matériaux puis de permettre, par exemple, à n'importe qui d'aller lire les manuscrits de Gabriel Roy. Merci.